Imaginez, nous sommes en 1467 et nous sommes en Bourgogne. Nous sommes au XVe siècle en Bourgogne. Au XVe siècle, la Bourgogne commence vers Dijon comme aujourd'hui, mais elle continue bien plus loin qu'aujourd'hui vers le nord. Elle continue, elle traverse la Champagne, la Picardie, l'Artois. Elle traverse aussi la frontière belge et elle continue encore vers la Hollande. Autrement dit, au XVe siècle, la Bourgogne, c'est un grand duché. Et le duc de Bourgogne est très puissant, très riche. Il est plus puissant et plus riche que tous les rois d'Europe de ce temps-là. Il faut que vous imaginiez Louis XIV, trois siècles avant. Imaginez, le soir, le duc de Bourgogne à sa table en train de souper. Il a invité une quinzaine de seigneurs qui sont ses vassaux, mais qui sont ses complices aussi. On aime bien manger en Bourgogne et bien boire. Tous ces seigneurs se retrouvent entre hommes et ils aiment bien s'amuser. Ils aiment aussi les femmes et les choses de l'amour. Et alors, chaque soir, lorsqu'il y a ce souper, à tour de rôle, comme dans le Décaméron de Boccace, ils racontent une histoire. Chacun son tour, librement. C'est Monseigneur de la Roche qui ce soir se lève et dit « Écoutez, mes seigneurs, écoutez comment les femmes peuvent parfois tirer profit de la grande faiblesse des hommes. Il y avait à Paris, du côté de la porte de la chapelle, un riche orfèvre. Et dans l'après-midi du 5 mai 1446, ce riche orfèvre était pensif. C'est qu'il voyait se rapprocher la date de la grande foire qui commence à la Saint-Barnabé et se termine à la Saint-Jean et qui s'étend de Saint-Ouen jusqu'à Saint-Denis. Il avait bien besoin d'invoquer les quatre saints, l'orfèvre, parce qu'il n'était pas sûr de se trouver fin prêt le grand jour venu. Il lui restait encore beaucoup à fabriquer. Beaucoup de plateaux en étain, beaucoup de calices en argent, beaucoup de coupes, de ciboires. Il avait embauché en renfort un grand nombre d'ouvriers qu'il hébergeait chez lui pour être sûr de les voir au travail dès la première heure. La maison en était remplie. La forge ronflait du matin jusqu'au soir pour préparer les alliages précieux. Et il fallait chaque jour à l'orfèvre de grandes quantités de charbon de bois. Plusieurs charretiers lui en assuraient la livraison. Mais l'un d'eux était particulièrement débrouillard. Et ce jour-là, il a réussi à fournir quatre charrettes de plus que tous les autres. Un exploit, selon la chronique. Il venait de rentrer dans Paris avec son dernier chargement quand les portes de la ville se sont refermées derrière lui, comme chaque soir en ce temps-là. Pas question pour le charretier de quitter Paris avant le lendemain, mais qu'à cela ne tienne. L'orfèvre l'a accueilli les bras ouverts. Une fois le charbon déchargé, les chevaux bien installés dans l'écurie, voilà le charretier assis à la table familiale de l'orfèvre. Un repas plantureux, crêtes de coq et rognons frits, pâtés en croûte, poissons grillés, chapons, gigots, fromages excellents. Le tout arrosé tant et plus de bon vin de Bourgogne, chaleureux et coloré. Quand la cloche a sonné minuit, tout le monde était bien surpris de ne pas avoir vu le temps passer. L'orfèvre alors a proposé au charretier de passer la nuit sous son toit, les rues n'étant pas sûres à cette heure tardive. Mais la maison était remplie, toutes les chambres occupées. L'orfèvre était bien obligé de faire partager au charretier le lit que lui-même occupait avec son épouse. En homme de bon sens, qu'aucune espèce de soupçon ne vient tourmenter, il a fait coucher son épouse entre le charretier et lui-même. Oh, mais ne croyez pas que l'affaire s'est faite toute seule, non. Le brave charretier refusait catégoriquement de se faire héberger de cette façon-là. Lui, il aurait dormi sur un banc ou dans le foin de la grange. Mais rien à faire. L'orfèvre était trop content d'avoir fait rentrer tout le charbon nécessaire et de finir à temps une production qu'il souhaitait vendre un bon prix. Le charretier a fini par céder. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place, hein? Donc, il s'est déshabillé et pour dormir, il est entré dans le lit où se trouvaient déjà l'orfèvre et sa femme. Quand celle-ci a senti que le charretier, à cause du froid ou de l'étroitesse du lit, se rapprochait d'elle, elle s'est tournée résolument vers l'orfèvre. En guise d'oreiller, elle a pris la poitrine de son mari pour y poser sa tête. Mais dans le mouvement, elle n'a pas pu empêcher que son gros derrière se trouve spontanément placé juste à la hauteur du giron du charretier. L'orfèvre, bien bu, bien content, bien mangé, n'a pas tardé à succomber au plus profond sommeil. Et si l'on s'en tient à l'apparence, sa femme en avait déjà fait autant. De son côté, le charretier, tout recru de fatigue qu'il était lui aussi, ne se trouvait pas tout à fait dans les mêmes dispositions d'esprit. Car comme les talons, quand il sent la jument, s'échauffe, s'agite, se dresse dans l'écurie, ainsi faisait son étalon à lui, relevant bien haut la tête de sentir là tout près, monts et merveilles, inconnues, toute une femme d'orfèvre. Dès lors, il n'était plus dans le pouvoir du charretier d'empêcher son étalon de la rejoindre, de s'approcher d'elle, de la serrer de près, de très près, ce qu'il fit. Les choses en restèrent là pendant un grand moment, dans l'obscurité de la chambre. La femme continue à dormir, en tout cas son comportement ne montrait pas si elle s'était réveillée. Le mari, quant à lui, ronflait comme un sonneur de Notre-Dame. Et il aurait dormi tout droit jusqu'au matin s'il n'avait pas eu posé sur la poitrine la tête de sa femme. Car bientôt, sous les coups de boutoir de l'étalon, la tête s'est mise à secouer l'orfèvre, à le secouer, si fort qu'il a fini tout de même par ouvrir un œil. Il a d'abord pensé, dans les profondeurs psychiques de lui-même, que sa femme était en train de rêver. Mais l'affaire traînait en longueur et il entendait le charretier qui s'agitait, qui soufflait là-bas de l'autre côté.
Alors il a ouvert l'autre œil.
Et là, tout doucement, il a levé la main, calculant bien son coup.
Et il l'a rabattu si exactement qu'il a surpris l'étalon du charretier en flagrant délit de braconnage dans un préfeuri qui n'était pas le sien.
Sans aucun ménagement, il a fait dégarpir les talons de la prairie où il gambadait, et dans le noir, il a sermonné le charretier.
« Malheureux ! Mais que faites-vous là ? Triple idiot que vous êtes, par ma foi, je vous trouve bien insensé de vouloir poinçonner ma femme sans être orfèvre en la matière !»
Le charretier a bredouillé deux mots d'excuse en tirant fort sur le bord de l'édredon.
« Sacre bleu, continuez l'autre !» Si elle s'était réveillée pendant que votre étalon l'a pilonnée de la sorte, vous savez ce qui se serait passé, hein, vous le savez ?
Silence lourd sous les redons du charretier.
Mais elle vous aurait griffé toute la figure, morbleu ! Et même de ses deux mains, elle vous aurait arraché au moins les deux yeux.
Vous ne savez pas quelle furie elle devient quand elle se met en colère.
Vous ne savez pas que pour la mettre en colère, rien de tel, mais rien de tel que de la faire jouer à ce petit jeu-là.
Le charretier se défendait bien d'avoir eu dans la tête la moindre intention de mettre en colère la femme de l'orfèvre. Mais le sermon continuait, s'étirait dans la nuit. Et la nuit était interminable. Il faut vous dire que le soleil, là-bas du côté d'Aubervilliers, suivait toute la conversation. Et il en oubliait de faire lever le jour. Pourtant, le petit matin est tout de même arrivé. Le charretier s'est levé. Il a souhaité le bonjour à son hôte. Il a souhaité le bonjour à son hôtesse. Et il est retourné à sa charrette. Il a attelé ses chevaux. Il leur a flatté l'encolure et la croupe d'une main quelque peu nostalgique. Et puis il est parti. 3 semaines après, l'orfèvre vendait en une seule matinée toute sa production en faisant un énorme bénéfice. Voilà l'histoire. Une histoire que le charretier ne s'est pas privé de raconter dans les tavernes et les auberges, comme je vous la raconte ce soir. À ceci près que, selon lui, la femme ne dormait pas. Mais là-dessus, les chroniqueurs ne sont pas unanimes. Et puis, à la table du duc de Bourgogne, on en a longtemps débattu. Alors le mieux, c'est que vous fassiez vous-même votre idée.